Bonjour, dans cette série estivale sur les bonnes idées que l'on finit par ne plus reconnaître, je parlerai aujourd'hui d'Europe, ou plutôt de l'idée d'Europe. Au départ, l'histoire est magnifique. Profitant de la paix rétablie en Europe en 1945 par l'URSS et les États-Unis qui ont vaincu Hitler, encouragé en Europe de l'Ouest par le plan Marshall, refusé pour l'Europe de l'Est par Staline, les Européens de l'Ouest, déjà membres de l'Alliance Atlantique créée en 1949, décident d'établir entre eux des liens économiques et politiques étroits pour conjurer le passé, bâtir ensemble leur avenir économique et peut-être politique. Il s'agit d'empêcher tout retour au nationalisme déchaîné des décennies antérieures qui a conduit à la guerre, de coopérer en dépassant les fameux égoïsmes nationaux, c'est-à-dire d'établir une synthèse entre intérêts nationaux parfois opposés, d'assurer ensemble une croissance soutenue dans le cadre d'un marché commun. Cela bouscule bien des habitudes, cela fait naître des appréhensions, cela oblige à s'adapter, mais les petits groupes à la manœuvre, qui rêvent d'États-Unis d'Europe, même si ce projet européen n'a en fait aucun rapport avec l'histoire américaine, parviennent à convaincre les gouvernements et les parlements, et ainsi le traité de Rome est signé en 1957. Il ne manque pas de souffle. Il y est question d'union sans cesse plus étroite entre les peuples, lesquels peuples n'ont rien demandé, mais ne sont pas contre. Les débuts sont prometteurs. Bien plus tard, après de multiples péripéties, des avancées, mais aussi de longues périodes de stagnation, la construction européenne est relancée à partir de 1984 par François Mitterrand et Helmut Kohl qui placent ensemble à la tête de la Commission Jacques Delors, qui sera le père de l'acte unique traité destiné à permettre la création d'un grand marché. Cela conduit ensuite au traité de Maastricht en 1991, concomitant de la réunification allemande, qui permet de passer de la zone marque de fait à une monnaie unique. On ne parle plus alors de communauté, mais carrément d'Union européenne. Les européistes français, ce mot apparaît pour désigner les plus militants, voient l'Europe comme une France en plus grand. Et rêvent alors d'Europe sociale, d'Europe des citoyens, d'Europe politique. Et les Français imaginent même, bien qu'ils soient seuls, une Europe puissance, une Europe de la défense, etc. Il semble ne plus y avoir de limite aux abandons ou aux transferts de souveraineté souhaitables. Pour cela, le marché unique est censé obliger à une harmonisation de tout et à une libéralisation générale, comme dans le monde entier, mot qui fait peur en France. Les règlements, les directives commencent à pleuvoir et c'est là que des réticences apparaissent. À chaque texte trop intrusif, trop détaillé ou incompréhensible. Déjà, ne l'oublions pas, au référendum de 1992, le traité de Maastricht n'est passé qu'à 1% près. L'électorat populaire est de plus en plus réticent. Des forces politiques d'abord extrêmes, puis les autres, expriment ce refus de l'orientation générale de l'Europe et cet attachement persistant à la souveraineté se remanifeste. Les européistes ont de plus en plus de mal à démontrer que la construction européenne tient toutes les promesses mirifiques imprudemment faites et à convaincre que la souveraineté doit être jetée aux orties. Après la disparition de l'URSS, l'Union est élargie à tous les pays d'Europe devenus démocratiques. C'est-à-dire, c'est ce que veut tout le monde. Pour conjurer la montée des critiques, les européistes, en gros les trois quarts des élites économiques et des médias, répètent en boucle les mêmes arguments. L'Europe, c'est la paix, la jeunesse, l'avenir. L'Europe ne peut pas s'arrêter, jamais reculer, il faut aller plus loin. Mais cela ne marche plus. Les mêmes élites refusent toute remise en cause, s'énervent alors et changent de ton, dénoncent le souverainisme, le nationalisme, l'archaïsme, l'égoïsme, le pénisme, etc. Ce qui fait monter dans l'électorat énervé le désir de voter encore plus contre elles. Cercle vicieux. Les extrêmes prospèrent dans ce fossé qui s'élargit entre les élites et la population. Résultat, il y a aujourd'hui en Europe, en moyenne, 15 à 20% d'anti-européens et autour de 60% de sceptiques ou allergiques. Le Brexit n'est pas une aberration britannique isolée. Il y a un malaise général des peuples des autres pays, même s'ils ne veulent pas quitter l'Union, mais souvent aimeraient la changer en profondeur. Le projet européen est menacé si les élites ne redeviennent pas plus réalistes et plus démocrates et ne se résignent pas à passer un compromis avec les peuples sur le mode de décision et sur la ligne générale. Y parviendront-elles ? C'est ce que nous verrons, mais cela excède le cadre de cette chronique.